VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 21 avril 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. 10 personnes écrouées au Niger après de violentes manifestations à Niamey contre le couvre-feu et les interdictions de prières collectives. Dans plusieurs pays africains, les populations pauvres manifestent contre le confinement. En République démocratique du Congo, au moins 46 personnes sont mortes dans les récentes inondations au sud Kivu. Plus de 50 civils ont été tués le 7 avril dans une attaque djihadiste contre un village au Mozambique. Donald Trump veut suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis pour protéger les emplois des Américains. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. Au Niger, 10 personnes ont été écrouées dans une prison de haute sécurité après de violentes manifestations à Niamey contre le couvre-feu et l'interdiction de prières collectives pour lutter contre le coronavirus. Les détails avec Eki Abadou.
Selon la police, 108 manifestants ont été interpellés, dont 10 transférés à la prison de haute sécurité de Koutoukalé. D'après Issaka Hassan Karanta, gouverneur de la région de Niamey, des individus organisés ont entrepris de brûler des pneus et de s'attaquer à des biens privés. Dimanche soir, des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre aux habitants de plusieurs quartiers de Niamey qui s'étaient soulevés contre les restrictions dont un couvre-feu nocturne et l'interdiction des prières collectives à quelques jours du début du Ramadan. Les forces de l'ordre ont dispersé à l'aide de grenades lacrymogènes ces habitants qui voulaient organiser une prière collective dans une mosquée. Le pays compte 655 cas de coronavirus, dont 20 décès. Le 12 avril, le gouvernement a prolongé l'isolement de Niamey du reste du pays, ainsi que l'état d'urgence et le couvre-feu nocturne. Les lieux de culte et les écoles sont fermés.
En Guinée, Amadou Damaro Camara, un proche du président Alpha Condé, a été élu président du nouveau Parlement par 98 voix contre 6 à son adversaire Mohamed Lamine Kaba, en l'absence des principaux dirigeants de l'opposition. L'opposant togolais Agbeyome Kodjo a été arrêté à son domicile ce mardi et conduit à la gendarmerie. Les forces de l'ordre ont défoncé le portail de sa maison, a indiqué Maître Claver Ndri, l'un de ses avocats. Selon la gendarmerie, M. Kodjo a refusé de se présenter à 3 convocations. Le médecin congolais prix Nobel de la paix Denis Mukwege estime que les gouvernements africains doivent favoriser les solutions locales pour lutter contre le Covid-19. Les populations pauvres commencent à contester le confinement. Le point avec Eric Manirakiza.
Jusqu'ici, l'Afrique a eu beaucoup de chance. S'il avait été frappé avec la même rudesse que la Chine, l'Europe ou les États-Unis, on connaîtrait tout simplement un désastre, a déclaré Denis Mukwege lors d'une conférence en ligne. Il a insisté sur la nécessité de solutions adaptées pour chaque pays. Presque 80% de la population de la RDC vit du secteur informel. Selon lui, le confinement strict est pratiquement impossible. La police sénégalaise a interpellé 74 jeunes dans le quartier populaire de Dakar pour violation du couvre-feu. Au Lesotho, le ministre de la police a passé la nuit en garde à vue pour avoir violé les règles de confinement, notamment en achetant de l'alcool. Au Malawi, la colère de la population a tonné si fort que la justice a suspendu le confinement au nom de la protection des plus pauvres. En Afrique du Sud, des habitants du township d'Alexandra à Johannesburg ont manifesté hier contre le manque de transparence dans l'attribution des aides alimentaires. Il y a eu aussi des scènes de pillage dans la ville du Cap. Le président Cyril Ramaphosa doit détailler ce soir des mesures pour atténuer l'impact social et économique du confinement.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 46 personnes sont mortes et des dizaines blessées dans les récentes inondations au sud Kivu. De nombreuses personnes sont portées disparues après les fortes pluies qui ont détruit plus de 15 000 habitations. Le pèlerinage annuel juif de la Griba, prévu du 7 au 13 mai en Tunisie, est annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Cet événement rassemble habituellement des milliers de pèlerins du monde entier. La plus ancienne synagogue d'Afrique à Djerba est fermée depuis la propagation du coronavirus en Tunisie, où 886 cas ont été déclarés, dont 38 décès. Le ministre de la police du Lesotho, Léolonolo Maramotse, a passé la nuit dernière en garde à vue pour avoir violé les règles de confinement. Il a été remis en liberté au petit matin avant d'être présenté à un juge. Le ministre est aussi accusé d'avoir branché illégalement son domicile sur le réseau de distribution d'eau. Plus de 50 civils ont été tués le 7 avril dans un village du nord du Mozambique lors d'une attaque de groupes djihadistes qui opèrent dans la région depuis plus de 2 ans. Ces djihadistes ont massacré 52 jeunes du village Xitaxi dans le district de Mwidumbe, a déclaré le porte-parole de la police Orlando Mudumane.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Avec près de 2,5 millions de cas de contamination et plus de 170 000 morts, la pandémie de coronavirus continue de se propager dans tous les recoins de la planète. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Avec plus de 42 000 morts, les États-Unis restent le pays le plus endeuillé devant l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte va annoncer les premières mesures d'assouplissement du confinement. « J'aimerais pouvoir dire « rouvrons tout tout de suite », a-t-il écrit sur son compte Facebook, mais une telle décision serait irresponsable. L'Iran a annoncé mardi 88 nouveaux décès ces dernières 24 heures, portant le nombre de victimes à près de 5300. Téhéran dit avoir libéré plus de 1000 prisonniers étrangers qui font partie des 100 000 détenus temporairement libérés en plusieurs étapes. La bourse saoudienne et celle des pays du Golfe ont ouvert en baisse au lendemain de l'effondrement historique des prix du pétrole américain.
Le président américain Donald Trump a annoncé vouloir suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis pour protéger les emplois des Américains face à la crise économique provoquée par le coronavirus. Les détails avec Abdourahmane Dia.
À la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible et face à la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis, a tweeté Donald Trump. Le coronavirus qu'il qualifie d'ennemi invisible a déjà tué plus de 42 000 personnes aux États-Unis et près de 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Le président n'a donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette mesure et pour combien de temps. Déjà, plusieurs programmes, dont celui sur la réinstallation des réfugiés aux États-Unis, ont été suspendus et les consulats américains à travers le monde ont arrêté temporairement leurs opérations de délivrance de visas. Il avait dès janvier restreint les déplacements avec la Chine avant d'interdire les voyages entre les États-Unis et la plupart des pays européens à la mi-mars.
Boris Johnson, en convalescence du coronavirus, s'est entretenu ce mardi avec Donald Trump. Le Premier ministre britannique et le président américain sont convenus de l'importance d'une réponse internationale coordonnée face au coronavirus, y compris via le G7, dont la présidence est actuellement assurée par les États-Unis. Les deux dirigeants se sont aussi engagés à signer un accord post-Brexit de libre-échange dès que possible. Des pays membres de l'OPEP et d'autres producteurs de pétrole se sont entendus ce mardi en téléconférence des cours du brut qui connaissent un effondrement historique. Les participants ont réitéré leur engagement à ajuster la production de pétrole selon les termes de l'accord scellé le 12 avril visant à réduire l'offre de 9,7 millions de barils par jour à partir du mois de mai. 826 millions d'élèves et étudiants dans le monde n'ont pas d'ordinateur à domicile, souligne l'UNESCO, alors que la majorité des pays privilégient l'enseignement à distance pour éviter la propagation du coronavirus. 706 millions n'ont pas accès à Internet, ajoute l'agence onusienne, précisant qu'en Afrique subsaharienne, 82% des élèves et étudiants n'ont pas accès à Internet chez eux. Le nombre de personnes victimes de la famine, déjà en forte augmentation l'an dernier, pourrait doubler en 2020 à cause du coronavirus, selon une projection de l'ONU. 135 millions de personnes dans 55 pays affectés par les conflits et les aléas climatiques étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë en 2019, indique le rapport mondial sur les crises alimentaires publié ce mardi. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
La colère des populations contre le confinement anti-coronavirus se fait sentir partout en Afrique. Au Malawi, elle a grondé si fort que la justice a infligé un camouflet aux autorités en suspendant leur ordre au nom de la protection des plus pauvres. À la surprise générale, la haute cour du pays, saisie par la société civile, a suspendu l'entrée en vigueur du décret présidentiel de prolonger le confinement de 3 semaines demandé par le président Peter Mutharika. C'est une première en Afrique. Au Sénégal, une loi entrée en vigueur lundi interdit les sachets plastiques à usage unique, mais certaines dispositions n'en seront pas appliquées avant la fin de la pandémie de coronavirus. Les autorités vont donc continuer à autoriser pour le moment la production et la distribution d'eau minérale en sachets plastiques, qui est extrêmement courante dans les rues sénégalaises, a indiqué le ministère de l'Environnement. La banque panafricaine Ecobank a fait une contribution d'environ 3 millions de dollars américains comme participation à la lutte contre le Covid-19 sur l'ensemble de son réseau en Afrique. Diverses contributions ont été apportées pour soutenir les efforts des gouvernements, de l'OMS pour atténuer les effets de la pandémie sur les couches sociales les plus vulnérables du continent.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le patron de la Bundesliga, Christian Seifert, appelle le football professionnel à être particulièrement discipliné si le championnat allemand reprend malgré la pandémie de Covid-19. Les 36 clubs de première et deuxième division allemande doivent participer ce jeudi à une réunion en visioconférence pour discuter d'une éventuelle reprise à huis clos du championnat qui pourrait avoir lieu le 9 mai. Pour des millions de supporters, ce serait un élément de retour à la normale à partir du 9 mai, même avec des stades vides, a déclaré le ministre de la Santé, Jens Spahn. En Italie aussi, l'ensemble des clubs de Serie A sont favorables à une reprise de la compétition, interrompue depuis le 9 mars. La Ligue a cependant précisé que la reprise du championnat ne pourra être effective que si le gouvernement en autorise le déroulement dans le plein respect des normes de protection de la santé et de la sécurité. Le protocole médical établi pour permettre la reprise de la compétition prévoit que les joueurs pourraient recommencer à s'entraîner par petits groupes à partir du 4 mai, date à laquelle le gouvernement prévoit de commencer à assouplir les mesures de confinement. En Espagne, mais cette fois-ci en basketball, la Ligue espagnole de basket a entériné la fin de la saison régulière de son championnat et opté pour une phase finale à 12 équipes. L'Association espagnole des clubs de basketball réunie lundi a indiqué mettre fin à la saison régulière pour cause de force majeure. Elle a précisé qu'il n'y aurait pas de relégation à l'issue de cet exercice. Sur les 18 équipes qui composent l'élite, les 12 premières au classement avant la suspension de la compétition joueront une phase finale dans un seul et même endroit qui pourrait être en dehors selon la presse espagnole. La formule retenue pour les play-offs est une répartition des équipes en 12 groupes de 6, dont les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales avant une finale pour désigner le champion. Ici aux États-Unis, les familles des 4 passagers tués dans l'accident d'hélicoptère aussi fatal à Kobe Bryant et sa fille Diana ont entamé des poursuites judiciaires contre la société propriétaire de l'appareil et celle qui l'exploitait. Elles ont déposé des plaintes séparées devant la Cour supérieure de Los Angeles. Les plaignants attaquent Iceland Express Helicopters et Iceland Express Holding pour conduite imprudente, négligente et illégale. Il y a 2 mois, Vanessa Bryant, la veuve de l'ancienne gloire des Lakers et mère de leur fille Diana, a entamé des poursuites judiciaires contre ces sociétés. Elle a aussi attaqué les ayants droit du pilote de l'hélicoptère, Aras Obayan, lui aussi mort dans l'accident, dont les causes font l'objet d'une enquête.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe. En
passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le nombre de malades du Covid-19 progresse chaque jour. Jusqu'à présent, le pays compte 879 cas déclarés, dont 10 décès. Pour freiner cette évolution rapide du coronavirus, les autorités ont rendu le port du masque obligatoire le 9 avril. Aïcha Diara, correspondante de VOA Afrique à Abidjan, a fait le tour de Yopougon pour constater la mise en pratique de cette mesure.
Nous sommes à Yopougon Sikoji à la gare des bus Sotra. Pour accéder à l'intérieur des bus, le port du masque est obligatoire, ce qui n'est pas aisé pour tout le monde. C'est le cas de Fulgence Kouassi.
Moi, particulièrement, quand je porte le cache-nez, ça me fatigue un peu parce que je n'arrive pas à bien respirer.
D'autres voyageurs, par contre, sont très à l'aise, comme Sandrine Kouna, qui est commerçante.
Bon, moi, je porte le cache-nez, c'est pour éviter la maladie. Parce que nous, on est là, on est plus exposé. Puis pour les enfants aussi, pour éviter aussi les enfants aussi d'être malades.
Porter ou ne pas porter, une chose est sûre, dans les rues d'Abidjan, les personnes portant les cache-nez sont moins nombreux que ceux qui n'en portent pas. Ngouran Assemia témoigne.
Moi, hier, j'étais à Pauvre 2. Je me suis promené. Si j'ai vu les gens porter le cache-nez, il n'y a pas plus de 9 personnes. Pourquoi? Est-ce que c'est l'information qui passe ça? Est-ce que ces gens-là ne se sont pas concernés?
Certains justifient ne pas porter le masque facial à cause des malaises et pour d'autres, c'est le manque de moyens financiers. Pour Oumar Fofana, un masque, c'est trop cher.
Vraiment, on n'a pas le moyen pour payer. Bon, le gouvernement dit qu'il nous envoie aussi.
Au fait, c'est facile à trouver sur le marché. C'est la poche qui fait la différence. Bon, les prix, mais cette main, c'est pas élevé quand même. Vraiment, c'est pas facile. Quand on pense à la nourriture, bon, le quotidien qu'on gagne, on a gagné.
Dans le même sens, Jean Aké estime que le gouvernement devrait en faire un don avant d'exiger quoi que ce soit.
Dans les grands surfaces, surtout dans les cars, les bus, tout, on exige forcément le cache-nez. Normalement, avant d'exiger ça, on doit nous partager au moins ça.
Cette exigence du masque facial a fait naître un grand business. Tout le monde veut les vendre, ce qui ralentit le chiffre d'affaires des vrais commerçants.
Moi-même, j'en vendais avant, mais j'ai arrêté parce que depuis lors, il faut dire que tout le monde s'est mis dans la danse. Voilà, aujourd'hui, tout le monde vend des cache-nez et ça ne marche plus. Aujourd'hui, tu mets ton argent dedans, tu as du mal à avoir ton capital.
Kadi Touré, elle aussi commerçante, trouve ce commerce très difficile aujourd'hui.
Nous, on vend les cache-nez, vraiment, c'est dur. Bon, on va au marché aussi pour retrouver souvent, ils ont augmenté le prix, tout ça là. Donc, quand on dit maladie là, il faut qu'on vend, on peut faire moins cher. Mais c'est pas nous mettre notre souhait quand on cherche l'argent dessus, mais c'est une maladie qui est là, donc on est obligé de vendre.
C'est toute une variété de cache-nez qui se vend dans les rues d'Abidjan. Rien ne garantit leur efficacité contre le coronavirus. L'essentiel pour la plupart, c'est d'avoir juste quelque chose pour protéger une partie du visage. Aïcha Diara, Abidjan pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Après 3 semaines de fermeture, le grand marché de Ouagadougou a rouvert lundi suite à la colère et aux menaces de certains commerçants. Aujourd'hui, le grand marché de Bobo Dioulasso a également repris son activité. Les marchés au Burkina Faso étaient fermés depuis le 31 mars afin d'éviter la propagation du coronavirus. Alidou Ouedraogo, correspondant de VOA Afrique à Bobo Dioulasso, est allé à la rencontre de certains commerçants.
Nous sommes très très contents parce que ça nous fait le 21 jours aujourd'hui. On n'a pas été au marché.
À chacune des 4 entrées de l'édifice commercial, des haut-parleurs annoncent les mesures barrières qui sont d'ailleurs loin d'être respectées. Un seul dispositif de lave-main et une boule de savon pour plusieurs centaines de personnes, des commerçants et clients confondus sans aucune distanciation sociale. Certains ne semblent pas rassurés.
Les lave-main, ils n'ont pas bien fait. Parce que là-bas, il y a erreur.
Seydou Zongo gère un magasin de prêt-à-porter.
Quand tu laves, c'est toi-même qui fermes là. Le virus là-même, tu peux reprendre et puis partir avec ça. C'est insuffisant. On doit mettre des efforts pour que ça soit nombreux.
Malgré ces conditions très peu recommandées, vendables, certains commerçants comme Seydou Zongo sont contents de retrouver leurs activités.
C'est que si on est content, on est rentré, ça va un peu mieux. Le manque de clients chinois, parce que les gens ont peur de rentrer. C'est ça le problème d'abord.
Devant ces bidons pleins d'huile rouge, Biba Ouattara, elle, a un souci majeur.
À cause de la maladie là, si les clients ne viennent pas, comment on va faire pour nourrir nos enfants à la maison? Et puis au moment que Karim va commencer, s'il n'y a pas l'argent, comment tu vas faire?
Vêtu d'une chemise multicolore et portant un masque, Abdoulaye Ganamé, venu au marché par curiosité, fustige l'autorité communale.
Vous avez pris l'engagement d'ouvrir le marché. Donc maintenant, vous venez regarder, est-ce que les dispositifs sont normales? Si ce n'est pas normal, vous devez agir. La veille même de l'ouverture, vous devez quand même contrôler ça d'abord. Ce n'est pas un petit marché. S'ils ne prennent pas leurs dispositions, la fermeture du marché, ça revient à égal à zéro.
L'ouverture du marché est un vrai sujet à polémique qui divise fortement l'opinion publique à propos du Lasso. Chaque groupe avec sa raison.
Concernant l'ouverture du marché central, bon, vraiment, je pense que c'est trop tôt. Il fallait attendre un peu. Maladie, on sait qu'il y en a. Quand on ouvre comme ça, vraiment, ça peut créer beaucoup d'autres choses dans la ville.
C'est vrai qu'il faut protéger la population contre la maladie, mais il y a aussi la pauvreté qui est là chaque jour qui crée d'autres problèmes encore.
Pour le moment, seul le grand marché est ouvert et les autres plus petits dans les quartiers reste fermé et personne ne sait jusqu'à quand. À Bobo du Lasso, la correspondance de Alidou Ouédraogo.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Gabon, durant cette période de confinement total à Libreville pour enrayer la pandémie de Covid-19, les habitants les plus démunis s'attendent à des aides sociales promises par le gouvernement. La distribution, qui a déjà commencé, semble sélective selon certains observateurs. Le point avec notre correspondant dans la capitale gabonaise, Ismaël Obiangenze.
Le gouvernement gabonais tente de tenir ses promesses d'aide sociale au bénéfice des citoyens économiquement faibles. La banque alimentaire mise en place pour les plus démunis a déjà apporté de l'aide à certains foyers de Libreville et ses environs.
On ne savait pas quand on devait recevoir ces bons-là. Parce que depuis la journée, on nous a dit qu'on n'aurait plus ces bons-là. C'est annulé.
Le projet du chef d'État concernant un peu les personnes démunies qui devaient venir en aide auprès de ces dernières s'est concrétisé au sein du quartier d'arrondissement, particulièrement le quartier plein et rien bien. Je crois que ce n'est pas du mensonge, c'est du concret, tant puisque j'ai les deux bons avec moi.
Après une semaine d'opération de distribution des kits et des bons d'achat alimentaires, plusieurs ménages se plaignent de n'avoir rien reçu en soutien au sacrifice du confinement total de la capitale gabonaise.
Ils donnent à leur famille. Nous, on est là, on n'a rien reçu. On écoute seulement les bons, on voit seulement la télé, les autres qui ont eu. Nous, on est là, on n'a rien, on a faim. Oh.
Ils ont sauté les maisons, c'est pas presque. À plein de gens, il y a eu peut-être 10 ou 20, mais le reste, rien. Ici, la zone de M. Madoula, on n'a rien, oui. On n'a rien. Avec nous, ils n'ont rien donné.
Indexé par tant de plaintes, le ministère de la Solidarité nationale, chargé de la dite mission, a organisé une réunion de crise avec un rappel à l'ordre ferme de ces différents points focaux. Prisca Koho, ministre gabonais de la Solidarité nationale.
Qui que ce soit qui mérite d'avoir les bons, vous les leur donnez. J'insiste là-dessus parce que si c'est vous qui commencez à faire le tri, alors qu'on n'a pas de monétisation, c'est-à-dire que vous-même vous cherchez les émeutes. Vous sautez les maisons, les rapports me sont faits. Moi, je ne peux pas me diviser en 150 000 personnes pour me retrouver à aller régler les problèmes dans les différents points de distribution. Mais je dis le message est le suivant. Tout le monde, si vous avez constaté que la personne correspond aux critères qui ont été indiqués, cette personne doit avoir son bon.
À quelques jours de la fin de la mesure de confinement total de Libreville et selon un bilan officiel, 3616 des 60 000 bons d'achat d'aliments prévus ont pu être distribués aux ménages. Au titre d'autres mesures d'appui aux familles pendant cette période de crise, le gouvernement gabonais a satisfait la promesse de la gratuité de l'électricité, mais celle du gel des loyers pour les personnes n'ayant pas ou plus de revenus mensuels reste soumise à de longues procédures administratives. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Chute sans précédent dans l'histoire de l'or noir. Le prix du baril de pétrole est en dessous de 0 $ pour la livraison du mois de mai, dont les contrats s'expiraient cet après-midi sur les marchés boursiers américains. Une situation créée par la forte production pétrolière et la pandémie de Covid-19 qui a fait reculer la demande. Joint par Bagassi Koura ici à Washington, Jean-François Seznec, professeur de finance à l'université Georgetown, revient sur la chute historique de lundi.
Écoutez, je pense que c'est une cause tout à fait technique au sens où 90% du pétrole sur le marché de New York est du pétrole acheté sur papier, c'est du papier spéculatif, il n'y a que 10% simplement des marchés qui sont en fait distribués et qui sont reçus en pétrole physique. Donc les gens, comme en ce moment, il y a très peu de demandes pour le pétrole physique, il y a très peu de demandes pour le papier spéculatif, et les gens qui avaient beaucoup de papier spéculatif hier étaient obligés de vendre, même à perte, pour se débarrasser de leur papier, sinon ils auraient été obligés de prendre possession du pétrole, ce qui est vraiment très difficile pour eux et même impossible. Donc ils ont vendu à n'importe quel prix, et puis bien sûr il y a d'autres spéculateurs qui ont pris avantage de ça pour gagner de l'argent. Mais si on ne peut pas vendre le papier, il faut le vendre à n'importe quel prix, et même si c'est à perte. Le fait est quand même que la raison pour laquelle ce papier n'était pas accepté par les autres acheteurs, si vous voulez, c'est que la demande physique pour le pétrole est très faible pour le moment à cause du virus.
On a vu, on a parlé de prix négatifs. Pour nous, ça veut dire quoi?
En gros, on peut simplement dire qu'il y aura toujours un certain prix à payer pour le pétrole, mais si effectivement il y a beaucoup trop de supply, hein, il n'y aura pas assez de demandes et par conséquent les prix vont continuer à tomber. Mais à court terme, ça s'arrêtera très rapidement, on n'aura pas de prix négatif, mais par contre on peut avoir des prix très bas.
Oui, des prix très bas, et qu'est-ce qu'il faudrait pour mettre fin à cela? Est-ce qu'il faudrait une diminution de l'offre et la fin de l'épidémie?
Oui, c'est tout à fait ça. Il faut d'abord que l'offre qui soit passée par les producteurs de pétrole diminue. C'est-à-dire que ils ont décidé de couper la production de 15 millions de barils, c'est bien, mais la demande a diminué de plus de 30 millions de barils à cause du virus. Donc ça crée des gros problèmes. Et même s'il y a des coupes sombres dans la production, et si la production est toujours supérieure à la demande, les prix vont continuer à tomber, c'est sûr.
Oui, et pour un pays comme le Nigeria, grand producteur de pétrole, c'est des moments très difficiles.
Ben oui, bien sûr. Alors le Nigeria produit un pétrole de très grande qualité qui a un premium important hein, sur les marchés mondiaux, mais même la qualité dans ce cas-là ne sera pas acceptée par les raffineries qui ont besoin de ce pétrole, et les prix vont continuer à tomber, ce qui veut dire que le Nigeria va avoir des pertes de revenus substantielles.
C'était le professeur Jean-François Seznec, professeur de finance à l'université Georgetown, ici à Washington.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
écouter Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Clédou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.